Je veux vous remercier et remercier Monsieur le Proviseur. Je veux dire combien je suis sensible d'avoir été invité par ce lycée qui s'est illustré pendant la résistance et qui a eu ses victimes. Et donc c'est un ancien de la France libre que je vous parlerai. Et je veux tout de suite dire deux choses. L'une, que j'ai été un jeune comme vous, que cette guerre à laquelle j'ai participé, j'avais à peu près pas beaucoup plus que votre âge, et que donc des événements qui pour vous sont bien lointains, ce que rappelle Emmanuel, pour moi reste une réalité vécue. Et c'est de cette réalité vécue, à travers cette réalité vécue, que l'historien que je suis devenu vous rapportera donc les événements. Je voudrais aussi que vous compreniez bien que pour celui qui a vécu tout cela, rien n'était joué d'avance. Tout était encore incertain. Il n'était pas dit que la guerre serait gagnée, bien que pas un jour, sauf peut-être au moment de la chute de Singapour et des énormes succès japonais. Pas un jour, je n'ai vu les Anglais douter qu'ils gagneraient la dernière bataille. Et les Français libres du général de Gaulle partageaient ce sentiment. Néanmoins, tout était ouvert. Et ce que serait l'après-guerre, le relèvement de la France, ce que serait l'Europe d'après-guerre, tout ça était inconnu, mystérieux. Ça pouvait être bien des choses. Donc ce dont je vous parlerai, d'abord, c'est pour préciser un petit peu ce que Martinet a bien voulu dire de mon parcours. Étudiant en 1939 à la Sorbonne, j'avais suivi des cours de la préparation, qu'on appelait la préparation militaire, pendant 2 ans, grâce à quoi j'ai été mobilisé comme élève officier de réserve, 4 mois de préparation à l'école de Saint-Cyr, puis chef d'une section de ruraux bretons, envoyé sur le front de l'Est, retraite chaque jour à l'approche des Allemands, ordre de défendre la Marne sans esprit de résistance, sans esprit de recul, alors que nous n'avions ni canon ni protection aérienne et que les Allemands, naturellement, en étaient pourvus, ce qui nous a pas pu les empêcher de franchir la Marne. Finalement, nous avons été encerclés, faits prisonniers. Je me suis retrouvé le 22 juin 1940, dans un camp de prisonniers de Poméranie. Et dans ce camp de prisonniers, je n'ai pas apprécié l'état d'esprit. Mais nous étions tous laminés par cette défaite incompréhensible, d'une brutalité absolument imprévue. Et nous avons su qu'il existait un général de Gaulle par un petit journal que les Allemands distribuaient, qui s'appelait le Trait d'Union, qui, dans le premier numéro, dénonçait le général Félon, qui poursuivait une guerre aux côtés des Anglais, absurdement. Et puis, au mois de septembre, les Allemands n'ayant pas réussi à redébarquer en Angleterre, je me suis dit que la guerre durerait longtemps et que donc j'avais pas envie de rester des années derrière les barbelés. J'ai été renvoyé dans un camp de simples soldats parce que le gouvernement de Vichy avait fait savoir aux Allemands que les aspirants, ce qui était mon grade, ne devaient pas être considérés comme des officiers. Donc, dans ce camp de simples soldats, lorsque j'arrive, je tombe sur un de mes camarades d'enfance, curieusement. Je lui dis, Claude, je vais m'évader, tu viens avec moi. Et il me répond, tu galèges, à Noël, on sera à la maison. C'est vous dire ce qu'était l'état d'esprit d'une population de prisonniers, naturellement mal informés, mais qui s'imaginaient que la guerre était presque terminée, que la guerre et que la paix allaient être conclues. Nous serons à Noël à la maison. Donc j'ai trouvé un camarade disposé à tenter l'aventure avec moi. Nous sommes évadés, enfin il a fait 2 mois de préparatifs, nous sommes évadés pour où ? La France était plus lointaine. Le Rhin était, le pont de Kehl était gardé. On pouvait pas en hiver passer le Rhin à la nage. Donc il fallait passer par la Rhénanie, ça faisait plusieurs lignes de démarcation, enfin ça faisait 1200 kilomètres pour arriver en France libre. L'Union soviétique n'était qu'à 425 kilomètres, nous avons décidé de nous évader vers l'Union soviétique. Et nous sommes partis, donc nous avons réussi à nous échapper du camp le 4 janvier 1941, par une température qui devait être entre 15 et 20 degrés au-dessous de zéro. Et nous avons, je parlais bien l'allemand à l'époque, nous avons en chemin de fer été jusqu'aux approches de la frontière lituanienne. Nous avons franchi la frontière lituanienne, nous avons passé le No Man's Land à la boussole dans la neige, enfin dans une terre glacée. Sur des cours d'eau gelés, à travers les fils de fer barbelés. Le lendemain matin, après une nuit de marche, on est arrivé devant un village. On est entré dans le cimetière, était à l'écart. On est entré dans le cimetière. J'ai effacé de la neige sur une tombe. Les noms n'étaient plus en allemand. Nous n'étions plus en Allemagne. Nous sommes embrassés. 6 heures après, nous avons été arrêtés par les soldats rouges et transférés à la prison de Kaunas. Et à partir de ce moment, nous sommes trouvés dans l'antichambre du goulag, ce qui a duré 8 mois pour moi. D'abord en prison dans des conditions très très dures, puis dans les prisons de Moscou. Ensuite, les Russes ont reconnu qu'il y avait un cas des évadés et nous avons été regroupés dans un camp à Kozielsk, dans une abbaye où avaient été précédemment, l'année précédente, 2500 des Polonais massacrés à Katyn. Et puis est arrivée l'attaque allemande le 22 juin 1941 et alors là, on a évacué notre camp et nous sommes trouvés à travers la Russie, de gare en gare, dans cet immense désordre qu'était celui de ce pays envahi, qui était à la fois effondré devant la trahison allemande et le drame qui les menaçait, et en même temps d'un patriotisme visible, décidé à tout pour sauver la Sainte Russie. Donc nous avons traîné de train de gare en gare à travers la Russie, finalement regroupés dans un camp épouvantable dans le nord de la Russie. Et lorsque, après 2 mois, le général de Gaulle eut appris qu'il y avait des prisonniers évadés en Russie et fut intervenu auprès des Anglais et des Russes, nous avons été libérés de la manière suivante, amenés à Arkhangelsk sur la mer Blanche, au bord de la mer Blanche, embarqués sur un petit rafio dans un brouillard épais à couper au couteau. On a navigué pendant 1 heure, encadrés par des soldats rouges, fusils mitrailleurs armés sur le pont. Et nous sommes arrivés à une masse noire énorme qui était un transport de troupes britannique, exactement, canadien. C'est un paquebot canadien transporté en transport de troupes, un des premiers convois de liaison entre l'Angleterre et la Russie. Et quand le premier, on achetait une passerelle entre notre petit rafio au ras de l'eau et puis cet énorme bateau au-dessus de nous, où des soldats canadiens qui étaient à toutes les rambardes nous jetaient des cigarettes. Et quand le premier d'entre nous s'est engagé sur les planches jetées entre les deux bâtiments, ces Canadiens anglais ont entonné la Marseillaise dont ils ne savaient pas les paroles, ce qui était vraiment bouleversant. Une chose qui, dans une vie, est un souvenir inoubliable. Et puis nous avons participé avec eux à un commando sur le Spitzberg où les Allemands avaient une base. Spitzberg, c'est-à-dire archipel dans l'océan glacial, et nous avons gagné Londres, où nous avons signé notre engagement. Et puis, un mois après, il y a eu une prise d'armes où général de Gaulle nous a remis la médaille des évadés. Et donc, moi, je me demandais ce que c'était que ce général. Après mes mois de captivité, je ne savais pas. Et je me demandais bien, je savais qu'il continuait le combat, c'était ça qui importait, c'était pour ça que nous étions engagés auprès de lui. Mais je me disais, enfin, je me souviens la formule que j'avais dans ma tête, pourvu que ce ne soit pas seulement un officier de cavalerie. Et puis donc, le général de Gaulle nous a remis ses décorations, et tirait en carré les simples soldats, le fusil sur l'épaule. Il est arrivé, il nous a tenu un petit discours, il nous a dit, voilà, ce que vous avez fait, c'est très bien, le règlement de l'infanterie prévoit qu'on ne doit pas rester, qu'on doit tout faire pour, si on est captif, pour ne pas rester entre les mains de l'ennemi. C'est très bien. Et maintenant, vous êtes responsable de la France avec moi. Je dois dire que j'ai jamais entendu imaginer un général parlant comme ça. J'étais sidéré. Et puis un mois après, pour le 11 novembre 1941, il y a eu le grand rassemblement des Français de Grande-Bretagne, qui se trouvait dans la plus grande salle de Londres, une très grande salle, l'Albert Hall, où le général de Gaulle a prononcé un discours où j'ai assisté, et où il a dit les deux principes qui nous animent sont liberté, égalité, fraternité et honneur et patrie. Moi, j'ai trouvé ça tout naturel. J'étais républicain de famille très solidement, de tradition très solidement républicaine. Liberté, égalité, fraternité, ça me paraissait aller de soi. Ce que je ne savais pas, que j'ai découvert progressivement, c'est que cette déclaration des deux devises admises à égalité, c'était une nouveauté. Et que jusque-là, et pendant toute la première année, le général de Gaulle avait tenu à ce que son mouvement soit exclusivement patriotique et militaire, à l'exclusion de toute allusion politique. Et qu'il avait mis sous le boisseau la devise « liberté, égalité, fraternité ». Il avait été doté par Churchill d'une émission de 5 minutes par jour sur les ondes de la BBC, qui était tous les soirs à 8h25, son porte-parole, ou lui-même, ou son porte-parole, en présence de la résistance, il parlait. Et le porte-parole avait donné comme indicatif à cette émission, c'est ce que j'ai appris après, hein, « Liberté, égalité, fraternité ». Et le général de Gaulle lui a dit qu'il lui demandait de substituer à la devise de nos mairies la devise de nos drapeaux. C'est-à-dire que la première France libre ne se souciait pas du tout de la République, mais se souciait de combat. Et que cette exigence du général de Gaulle de maintenir une France libre, patriotique et militaire, exempte de tout engagement politique ou même républicain, répondait au fait que la majorité des cadres de la France libre étaient largement de droite, de sensibilité, croix de feu, c'est-à-dire nationaliste traditionnel et pour un exécutif très fort, ou bien carrément d'Action française et très violemment anti-républicain, comme Cordier d'ailleurs, dont vous avez peut-être pu lire les mémoires. Donc, parler de la République, c'est se situer dans un mouvement qui, dans ses débuts, ne songeait pas du tout à la République. Et pourtant, pendant 2 ans, de 40 à 42, on peut considérer que la France libre a été la gérance de l'État français, a voulu être la gérance de l'État français à l'abandon ou trahi, et de 42 à 44, que la France libre a été l'instrument de la restauration de la République. Et donc, c'est cette évolution dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Dans la première phase, la phase que j'appellerais de gérance de la nation, de l'État français, je vous ai dit que la première année avait été une année apolitique, où on rejetait, où le général de Gaulle avait rejeté la politique. Et pourtant, des signes sont à rappeler, deux signes notables. Le premier, ce sont les deux déclarations que le général de Gaulle a faites à Brazzaville, le 30 octobre et le 16 novembre 1940. Le général de Gaulle considérait que le maréchal Pétain, en signant l'armistice, avait commis une trahison, et que d'autre part, à partir du moment où il avait signé cet armistice, il n'était plus libre, et que par conséquent, son gouvernement n'avait plus, dépendant de l'ennemi, n'avait plus de légitimité. En conséquence de quoi, les deux déclarations faites à Brazzaville proclament l'inconstitutionnalité et l'illégitimité du gouvernement de Vichy. Ce qui, vis-à-vis des Français, était quelque chose d'extraordinairement hardi, à supposer que les Français l'aient su, mais ils ne l'ont pas su à l'époque. En tout cas, ces deux textes sont deux textes de principe qui sont fondamentaux dans l'histoire de la France libre, dans l'histoire française de la guerre. Car il s'appuie sur une démonstration juridique extrêmement poussée, démonstration juridique qui reprend les textes constitutionnels français, et qui rappelle dans quelles conditions le président de la République doit être élu, dans quelles conditions fonctionnent les chambres, que le régime républicain est irrévocable. Et donc, c'est en s'appuyant sur une démonstration juridique rigoureuse, faisant appel à tous les articles juridiques français de la Troisième République, qu'est fondée la déclaration en question, dont ressortent deux conclusions. L'une, que la Constitution française est toujours en vigueur. Il n'est pas question de rétablir la République, mais que la Constitution française est toujours en vigueur, et deuxièmement, que nous, général de Gaulle, constatant cette vacance du pouvoir, et fort de l'appui que des millions de sujets français à travers le monde nous apportent, nous nous engageons à assurer les pouvoirs de guerre et à en rendre compte au peuple français au moment de la libération. Alors, encore une fois, ce n'est pas une affirmation républicaine, mais elle est basée sur des textes qui sont bien des textes juridiques de la République. Ces deux déclarations de l'automne 1940 sont restées inconnues à l'époque. D'abord parce que les communications entre la France et l'Angleterre n'étaient pas tellement faciles, mais surtout parce que le Churchill en a interdit la diffusion par la BBC et en a interdit l'impression. Et les Anglais, à cette époque, fin 40, tout début 1941, avait des négociations en sous-main avec le gouvernement de Vichy, avait cru comprendre que le gouvernement de Vichy résistait ou pourrait résister aux Allemands, et donc Churchill ne voulait rien faire qui puisse être considéré par le gouvernement de Vichy comme une dénonciation et une atteinte à sa légitimité. Et donc, c'est en violation avec la décision de Churchill que le général de Gaulle a fait imprimer le texte en question dans le premier numéro du journal officiel de la France libre, qui a eu une diffusion minime, mais qui existe, et ce journal officiel avait exactement la présentation, la disposition, les caractères du journal officiel de la Troisième République. Donc ceci est un élément marquant et quasiment inconnu de la première année. Ce qui est plus important dans la vision du général de Gaulle, c'est de comprendre que l'aventure de la France libre a été non pas seulement une aventure militaire, mais une aventure politique, décidée comme une aventure politique dès le premier jour. Il s'agissait pour le général de Gaulle, et j'ai eu l'honneur qui me l'explique quelque temps après mon arrivée, ses objectifs, qu'est-ce que ça avait été? Premièrement, qui est une force française qui existe est telle que pas un seul jour la France n'ait été absente de la guerre. C'était deuxièmement, rallier des terres françaises où flotte librement le drapeau français en toute légalité. Et c'était troisièmement, obtenir une reconnaissance des alliés, une reconnaissance qui finalement voit en la France libre les représentants légitimes de l'État français. C'est-à-dire un dessein politique qui a été poursuivi avec une continuité, une volonté, une efficacité, une intelligence politique tout à fait exceptionnelle. C'est à partir de l'automne 1941 que les choses se déclenchent plus clairement. Je veux dire qu'à partir de l'automne 1941, le général de Gaulle commence à reconstruire vraiment un État français en exil. Cet État français qui pourra se substituer au gouvernement du maréchal Pétain sur les décombres de Vichy. Et qui sera un gouvernement républicain. Les étapes, c'est essentiellement la création d'un comité national français en septembre 1941. Comité national français qui est un pseudo-gouvernement destiné à faire pièce au gouvernement de Vichy, qui a des commissaires nationaux ayant donc le rang équivalent à celui de ministre, avec des textes consécutifs qui prévoient que le fonctionnement de ce quasi-gouvernement sera identique à celui du gouvernement de la Troisième République, avec décisions prises par ordonnance, par décret, par arrêté, publiées dans un journal officiel qui sera conforme à celui de la Troisième République, qui se référera aux références juridiques de la Troisième République. En même temps, seront développées une justice selon les principes de la justice de la Troisième République, sous l'autorité d'un remarquable juriste qui s'appelait René Cassin et qui, dans cette évolution vers la restauration de la République, a joué un rôle tout à fait éminent, qui avait été un des pères, qu'on peut considérer comme un des pères de la France libre. Et donc, effort en même temps pour obtenir une représentation, les éléments de ce qui pourrait devenir une représentation diplomatique. Bref, progressivement, tous les éléments constitutifs de ce qui pourrait constituer un État. Et puis, des éléments auxquels on n'avait pas pensé, auxquels il n'y avait pas pensé pendant les premières années, sont intervenus à partir de la venue à Londres de Jean Moulin à l'automne 1941, c'est-à-dire la découverte de la résistance, des mouvements de résistance français. On ne savait pas jusqu'à l'automne 1941 qu'il y avait en France déjà constitué, dépourvu de moyens, mais ayant un journal clandestin qui en était le symbole, un certain nombre de mouvements, notamment de mouvements de zone sud. Jean Moulin est venu en apporter l'affirmation à De Gaulle. Et à partir de ce moment, Jean Moulin a été parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Les liens se sont progressivement établis entre la France libre et la résistance intérieure. Et une étape tout à fait remarquable a été la venue à Londres d'un premier chef de mouvement, Christian Pinault, futur ministre des Affaires étrangères, socialiste, chef du mouvement Libération Nord, qui est venu à Londres pour bénéficiant d'un des premiers atterrissages clandestins, qui est venu à Londres pour savoir ce que c'était que ce général de Gaulle, pour savoir s'il était démocrate. Parce que Pinault était donc socialiste, les mouvements de zone sud étaient des mouvements dont les chefs ne se préoccupaient pas encore beaucoup de ce que serait l'avenir de la France, mais enfin étaient des démocrates. Et donc Pinault est venu pour savoir ce que c'était que De Gaulle. De Gaulle a eu plusieurs réunions avec lui, avec deux autres syndicalistes, un syndicaliste français venu des États-Unis, Tixier, qui a été plusieurs par la suite ministre, et un syndicaliste français de Londres, socialiste également, qui s'appelait Henri Hawke. Et ils ont demandé à De Gaulle une déclaration fixant, précisant ses vues politiques, ses buts de guerre. Et De Gaulle a donné à Pinault, pour qu'il la rapporte en France, le texte d'une déclaration. Cette déclaration est un document magnifique, précurseur du programme commun de la résistance, qui définit précisément les buts de guerre de la résistance, les buts de guerre de la France libre, qui dénonce d'abord, en son début, le régime de Vichy qui s'est effondré dans la corruption et la trahison, mais aussi le régime de la Troisième République qui n'a pas été capable de faire face au désastre, car De Gaulle voulait une restauration de la République, mais ne souhaitait pas, et nous ne le souhaitions pas du tout, qu'elle soit comparable à ce qu'avait été la Troisième République finissante. Et donc cette déclaration, d'autre part, définissait des buts de guerre, c'est-à-dire que soient abolis les abus du pouvoir de l'argent, que reviennent à la nation tous ses droits, que reviennent à la nation la gestion des grandes sources et matières premières, que la sécurité soit assurée vis-à-vis de l'étranger, mais aussi la sécurité intérieure de chaque citoyen qui ait les moyens de vivre dans la dignité, bref, l'ébauche d'une dignité sociale, et l'affirmation que le régime ultérieur de la France devrait être décidé après la libération par un vote de tous les Français et de toutes les Françaises. Alors, ce texte est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si vous le connaissez, probablement oui. En tout cas, c'est un des grands textes de notre histoire, et je le répète, prélude au programme en termes vagues, au programme commun de la résistance de 1944. Et à partir de ce moment, la liaison entre résistance intérieure et France libre s'est effectué. Les trois mouvements de résistance de zone sud, puis Léon Blum et le Parti socialiste, et en fin d'année le Parti communiste, ont reconnu l'autorité du général de Gaulle sur la base de cette déclaration. À la fin du printemps 1942, de Gaulle, pour la première fois, a affirmé que c'était la République, le rétablissement de la République, qui était un des objectifs qu'il poursuivait. Et à partir du moment où l'accord a été fait entre Résistance intérieure et France libre, où les trois mouvements de zone sud, Combat, Libération et Franc-Tireur, ont reconnu l'autorité du général de Gaulle, il a changé la dénomination France libre en France combattante pour que cette dénomination, qui n'a pas eu de succès, enfin qu'on a oublié, qui aujourd'hui ne représente rien, mais enfin qui l'a adoptée, qui était notre dénomination commune officielle. Et à partir de ce moment, le journal officiel de la France libre est devenu le journal officiel de la France combattante, avec en surtitre République française. C'était donc une affirmation tout à fait claire. La France libre, dans l'été 1942, se déclarait représentante non seulement de la patrie combattante, mais représentante de la République menacée, trahie. Et lorsque, à l'automne 1942, se produit un événement alors qui change complètement la donne, c'est-à-dire le débarquement américain, anglo-américain en Afrique du Nord, nous nous trouvons devant une situation tout à fait extraordinaire, car les Américains, pour hâter le ralliement de l'armée française d'Afrique du Nord, qui était très largement pétainiste dans ses cadres, le général Eisenhower reconnaît l'amiral Darlan, dauphin, vous connaissez cette histoire, l'amiral Darlan, dauphin du maréchal Pétain, comme ayant plein pouvoir en Afrique du Nord, assisté du général Giraud, et l'Afrique du Nord, libérée, détachée du gouvernement de Vichy, se trouve dans cette situation tout à fait extraordinaire, qui est maintenu le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire, comme nous disions, un Vichy bis sous régime, sous protectorat américain. Donc deux France dissidentes de Vichy. Vichy n'a plus d'atouts, Vichy a perd sa flotte, Vichy perd son empire, et l'empire colonial français était tout de même à l'époque, couvrait le quart de l'Afrique, et était un atout considérable. Face à ce régime de Vichy en Afrique du Nord, c'est la République dont le général de Gaulle se fait le défenseur. Il affirme, en tant que gérant des intérêts français, que doivent être rétablies les justes lois de la légitime République. Et face à l'amiral Darlan, face au général Giraud, c'est sur cette base qu'il entretient d'abord la polémique contre l'amiral Darlan, puis le débat avec le général Giraud, un débat qu'on a appelé la querelle des généraux, qui a duré des mois, pendant des mois jusqu'à mai 1943. Le général de Gaulle, donc, a opposé au général Giraud, aux vichistes d'Afrique du Nord, aux généraux qui avaient canonné les Américains et qui maintenait le portrait du maréchal Pétain un peu partout. Le général de Gaulle a adressé au général Giraud un mémorandum précisant les revendications sur la base desquelles devrait se faire l'accord nécessaire. Il fallait naturellement que toutes les forces françaises se réunissent, que toutes les terres françaises soient regroupées dans la guerre. Mais les bases doctrinales sur lesquelles cet accord devait se faire, défini en février 1943, c'était dénonciation de l'armistice, c'était exclusion des généraux qui ont pactisé avec l'ennemi, et c'était rétablissement de la légalité républicaine. Donc, les choses étaient tout à fait claires. La France libre était le champion du rétablissement de la liberté, de la légalité républicaine. Et c'est sur cette base, finalement, que le général Giraud a accepté, de capitulation en capitulation, que se fasse l'accord qui a permis, au début de juin, le 3 juin 1943, la constitution d'un comité français de la libération nationale qui est devenu l'année suivante le gouvernement provisoire de la République française. C'est-à-dire que nous arrivons au moment où le général de Gaulle arrive à Alger en 1943, là s'ouvre vraiment l'époque de restauration de la République, au point que l'on a pu parler d'une République française d'Alger. Comment se fait cette restauration de la République? Elle se fait d'abord par l'abrogation de toutes les lois en Algérie et en Afrique du Nord, de toutes les lois vichistes qui avaient été maintenues, le rétablissement des bustes de Marianne dans les mairies, et l'exclusion des généraux qui ont pactisé avec l'ennemi ou qui ont canonné les Américains lorsqu'ils ont débarqué en Algérie et au Maroc, et la dissolution d'un certain nombre d'associations maintenues par Vichy. Bref, la restauration en Algérie, Algérie terre française à l'époque, et Alger étant considérée comme la deuxième ville de France par son importance. Alger, capitale de la France hors de France. Donc, dans un premier temps, rétablissement des lois républicaines en Afrique du Nord, épuration et fait symbolique, procès et condamnation à mort de l'ancien secrétaire à l'intérieur, Pucheux, qui n'était pas sans toute responsabilité dans la désignation des otages fusillés à Châteaubriand. Et puis d'autre part, il y a la reconstruction des institutions, des moyens de la République, d'un État français et de la République, de façon plus conséquente que ce n'avait été le cas à Londres. Les deux éléments qui sont à la base de cette reconstruction de l'État et d'un État républicain, c'est d'abord la mise en place d'une commission juridique présidée par ce René Cassin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette commission juridique, elle a pour mission de réviser toutes les ordonnances qui ont été prises par Vichy, toute la législation de Vichy, pour la républicaniser, de vérifier dans la préparation de la libération de la France ce qui est acceptable dans les mesures prises par Vichy, car des mesures de gestion courante nombreuses, mesures en faveur de la famille, etc., qui étaient tout à fait normale et dans certains cas progressive même, des mesures concernant l'industrie et d'autres qui étaient attentatoires à un état de droit qui ne pouvait pas être toléré. Donc un énorme travail, gigantesque travail de révision de toutes la législation de Vichy a été opérée, pas terminée au moment de la libération, mais a été opérée, ainsi que la mise au point des dispositions transitoires qui permettraient le rétablissement de la non seulement de la légalité républicaine, mais le passage à de nouvelles institutions. Puisque, comme l'avait dit Général de Gaulle, c'était à la nation française de déterminer quelles devraient être ses institutions futures. Donc cet énorme travail fait par Cassin avait son origine déjà à Londres. À Londres, dès la fin 1941, De Gaulle avait créé, présidé par Cassin, une commission de réforme de l'État. Et Cassin a joué dans ce travail, un rôle considérable. Ce rôle, d'autre part, était amplifié pour la commission de réforme de l'État, par la commission juridique de Cassin, par le fait que toutes les mesures législatives nouvelles que prendrait le gouvernement devaient passer par la commission juridique et être visées ou mises au point par la commission juridique. Ceci, d'ailleurs, est une réforme qui a été entérinée après la guerre et qui a la commission Cassin était l'équivalent du Conseil d'État dans son rôle de conseil du gouvernement. Et c'est donc une réforme qui a été confirmée après la guerre et qui est aujourd'hui une des bases d'ailleurs de notre fonctionnement législatif. Il est certain que les projets de loi qui sont présentés par les ministères et présentés avant de venir au Parlement doivent obligatoirement être étudiés et mis au point par le Conseil d'État et qui seraient invotables pour un grand nombre d'entre eux, s'ils arrivaient dans le Parlement tels qu'ils ont été préparés par les ministères, hélas. Mais enfin, c'est une autre affaire. Donc, un des points essentiels de cette restauration de l'État, ça a été cet énorme travail législatif. Le deuxième aspect a été la constitution à Alger d'une assemblée consultative provisoire. Consultative, parce qu'elle n'avait pas tous les pouvoirs d'un parlement, mais enfin, progressivement, elle en a acquis un certain nombre. Assemblée tout à fait remarquable par sa constitution, car elle réunissait d'une part un certain nombre de membres de la France libre, mais d'autre part des délégués des mouvements de résistance choisi avec l'accord du Conseil national de la résistance. Et donc, deux avions anglais, en octobre 1943, ont débarqué, pas tellement loin d'ici, pour deux bombardiers légers, atterrissant successivement, ont embarqué 18 représentants de la résistance et de l'ancien Parlement français, dont Vincent Auriol, par exemple, futur président de la République, un ancien vice-président du Sénat, Fargeon, et puis des représentants des mouvements de résistance. C'est-à-dire que cette assemblée consultative provisoire était représentative, voulait être et était réellement représentative de toutes les formations résistantes de la France. Une représentation de la France résistante, une représentation de ce que nous considérions comme la vraie France. Cette assemblée consultative provisoire a acquis un certain nombre progressivement de responsabilités, le droit de poser des questions écrites et des questions orales, et d'autre part, aucune ordonnance, aucune disposition législative engageant d'importance majeure, entraînant, ayant pour objet les institutions françaises de la France, ne pouvait être adoptée sans l'accord de l'Assemblée consultative provisoire. C'est-à-dire qu'était constitué à Alger un pouvoir exécutif représentant tous les partis politiques français, puisque dans le Comité français de la Libération nationale, il y avait des députés socialistes, des députés radicaux comme Adès France, députés de droite comme Jacquinot, représentants des mouvements de résistance comme Dacier de la Villerie, président de, fondateur de Libération Sud, ou Freinet, fondateur de Combat, et même à partir du printemps 1944, deux représentants du Parti communiste, Fernand Grenier et Biou. C'est-à-dire que ce gouvernement, qui n'avait pas encore le gouvernement, Comité français de la Libération nationale, c'est tardivement, au moment du débarquement, qu'il a pris le nom de gouvernement provisoire à la demande de Vincent Auriol et des membres de l'Assemblée. Ce gouvernement était vraiment représentatif et de l'ancien Parlement français dans ce qu'il avait étudié de résistant et des formations résistantes. Donc, un gouvernement représentatif, une assemblée représentative, des délégués dans le monde entier qui étaient déjà reconnus par un bon nombre de pays, notamment par l'Union soviétique, comme représentatives de la France. Seul le gouvernement américain, très méfiant à l'égard de De Gaulle, a refusé cette reconnaissance jusqu'après la libération de Paris. Une armée qui a atteint 300 000 hommes, le pouvoir sur un empire colonial qui, à l'époque, était immense. Aucune puissance résistante, aucune puissance occupée par les Allemands n'avait à la fois de tels pouvoirs, de telles forces armées, et surtout une telle représentativité. Dernier point, a été présenté en dernier lieu peu de temps avant le débarquement en Provence, au début de l'été 1944, une ordonnance sur les pouvoirs publics, l'organisation des pouvoirs publics après la libération. Et ce texte a été soumis à l'Assemblée. Et l'Assemblée a mis au point le texte en spécifiant que le régime de la France, en droit et en fait, est celui et n'a jamais cessé d'être celui de la République. Je ne vous donne pas la formule exacte, mais c'est bien cela. En droit comme en fait, le régime de la France n'a pas cessé d'être celui de la République. À cela s'est ajouté, en liaison avec la France, avec les formations de la France occupée, la constitution de ce qu'on a pu appeler l'État clandestin. C'est-à-dire que il existait un Conseil national de la résistance, ça vous le savez, vous l'avez appris, constitué par Jean Moulin, représentatif des formations résistantes sur le territoire national, Il y avait en France une délégation générale clandestine, c'était Jean Moulin, puis ça a été Jacques Bingen après le décès de Jean Moulin, puis ça a été Parodi dans la dernière phase. Cette délégation générale était la représentation clandestine de De Gaulle. C'était très peu de choses du temps de Moulin, on le voit bien à travers Caracalla. La solitude de Jean Moulin a été terrible, presque jusqu'à son arrestation. Mais en 1944, la délégation générale représentant De Gaulle en France était quelque chose de solide et d'étoffé avec des hommes de premier ordre, juristes, etc. Avait été constituée par Jean Moulin un certain nombre de commissions, d'autre part, et une commission d'études, commission générale d'études, qui, en liaison avec Alger, en liaison avec Cassin, avait approuvé ou préparé toutes les lois, toutes les mesures de restauration de la République. Et enfin, en accord avec le Conseil de la Résistance, avait été désigné à partir de septembre 1943 des préfets clandestins pour tous les départements de France, des commissaires régionaux de la République pour toutes les régions de France et des secrétaires généraux qui, en attendant que le gouvernement provisoire puisse venir en France, représenterait à Paris chacun un des ministres provisoirement en attente donc de la libération totale. Et effectivement, ce qui s'est passé et ce qui est une réussite tout à fait extraordinaire, c'est qu'à mesure de la libération, les préfets, si seulement n'avaient pas été nommés, les préfets se sont révélés et à mesure du départ des forces allemandes ou de la libération de leur ville, ou quelquefois avant, ont pris le pouvoir sur les décombres de Vichy. Dans toutes les régions de France, cette véritable insurrection nationale, ce changement de régime, s'est fait sans grave trouble, quelquefois, oui, avec des exécutions sauvages, des mouvements violents, des dissensions, mais enfin, partout, les préfets, les commissaires de la République ont pris le pouvoir au nom de l'autorité nouvelle. À Paris même, avant que Paris ne soit libéré, il y avait sur place un préfet de police, il y avait sur place un préfet de la Seine, qui s'était présenté à l'hôtel de ville alors que le préfet de Vichy était sur place, lequel a accepté de s'effacer. C'est-à-dire que lorsque Leclerc est entré dans Paris, il y avait déjà sur place le préfet de police, le préfet de la Seine. Et puis naturellement les autorités résistantes, le comité parisien de la libération. Donc construction d'un État, cette reconstruction de la République en accord avec les autorités résistantes est vraiment une opération qui est exceptionnelle, à mon sens, par son intelligence politique, sa continuité et puis son efficacité. Bien entendu, la République que les uns et les autres voulaient n'était pas la même. Des points communs existaient sans aucun doute. C'était ceux qui avaient été définis déjà par le général de Gaulle dans sa déclaration du printemps 1942. C'était ceux qui avaient été confirmés par le programme commun de la résistance, c'est-à-dire qu'il était acquis de l'accord de toutes les formations. Et je rappelle que le programme commun de la résistance a été approuvé également par un représentant de la droite française, Laniel, très beau résistant et futur président du Conseil. Donc une unanimité résistante s'était faite pour que la future République soit aussi une République sociale, une République qui fasse des nationalisations, qui donne une impulsion à l'économie par le moyen d'un plan qui assure la sécurité sociale. Tout cela était acquis, tout cela était voulu, encore fallait-il que ce fût réalisé. Ça l'a été en grande partie sous le gouvernement du général de Gaulle, 45 au début 47, et achevé par la 4e République. Ce sont ces acquis qui, pour une partie, dans un monde complètement transformé aujourd'hui, mondialisé, etc., sont pour certaines démantelés ou mis à mal. Donc ceci était acquis sur le plan économique et social. Des divergences existaient, en revanche, qui étaient sous-jacentes au moment de la libération, à savoir quelle forme politique aurait la République à venir. Une vingtaine de projets de constitution avaient été faits par des résistants, par des hommes politiques, André Philippe en effet. André Philippe, député de Lyon, et commissaire national, ministre de Gaulle, avait fait la première. Jules Mocq, député socialiste, en avait fait une autre. Toutes ces constitutions rejetaient le fonctionnement de la Troisième République qui avait conduit à l'instabilité gouvernementale, l'instabilité ministérielle et l'absence d'autorité. Toutes souhaitaient un renforcement de l'autorité de l'exécutif. Mais toutes sauf une prônaient un régime parlementaire. Un régime parlementaire comme en Angleterre aujourd'hui, en Allemagne, etc. Seule une de ces constitutions prônait un régime présidentiel. Il semblait acquis à travers ce que l'on savait du général de Gaulle, de confidences qu'il avait pu faire, disant par exemple à un Britannique qu'il avait répété « Je souhaite fermer la parenthèse ouverte par la Révolution française ». Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Ce que l'on pouvait supposer d'après les confidences et l'attitude du général de Gaulle, d'après son caractère autoritaire et autocratique, c'était par les condamnations aussi qu'il avait faites de la Troisième République, des condamnations vraiment très très vigoureuses. Et c'était qu'il souhaitait un gouvernement probablement présidentiel. Il y avait une troisième tendance qui était la tendance communiste, qui était un gouvernement populaire, c'est-à-dire un gouvernement du peuple avec vraisemblablement l'acheminement vers une formule démocratie populaire. Mais tout ça était encore incertain au moment de la libération. C'était à jouer, c'était aux Français, comme l'avait décidé et annoncé de Gaulle dès 1942, de décider de ce que serait leur avenir. Je m'arrête là. Le rétablissement de la République était acquise quand, le soir de la libération de Paris, de Gaulle est reçu à l'hôtel de ville, que Georges Bidault lui demande d'annoncer le rétablissement de la République. Il répond « Pourquoi rétablirais-je la République ? Elle n'a jamais cessé d'exister avec le Comité national français, avec le Comité de la Libération nationale. » Je m'arrête là, je vous remercie, et je suis tout prêt à répondre à vos questions. Questions sur cette évolution politique, cette restauration de la République, mais aussi, si vous le souhaitez, puisque c'est au programme du concours, sur la libération et la manière dont la libération a été conçue et vue de Londres. Merci.